Une FPS, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous êtes d'accord un petit peu sur les prix qui ont été attribués? Et après la petite pause, on parlera rugby avec notre ami Ludo.
On fera
un point top 14 et Pro D2. Il y a eu les barrages en Pro D2. Et demain, c'est la liste que nous donnera Monsieur Saint-André pour la Coupe du Monde. On en parlera aussi, voir nos favoris. Et pourquoi pas aussi un débat sur le futur sélectionneur. On a vu qu'il y aurait peut-être un étranger à la tête de l'équipe de France de rugby. Ce serait vraiment une révolution. Et après, à 20h, Nico, ce sera Radio Vélo. Comme d'habitude.
Eh oui, Radio Vélo en plein Giro, et puis à quelques jours de la Ronde de l'Isard que l'on suivra pendant 4 jours avec la team Radio Vélo et un live exceptionnel vendredi soir depuis les cabanes en bas du plateau de Baye, c'est ça Mika?
Ouais, un petit village, nickel pour dormir avant d'aller faire la petite montée le lendemain.
C'est voilà, donc ce sera à suivre tout à l'heure donc dans Radio Vélo, la présentation de la Ronde de l'Isard avec Guy Sens, le président organisateur.
Allez, on perd pas de temps, on va démarrer donc par notre partie football et la Ligue 1 qui donne son verdict petit à petit. Et donc c'est fait, alors c'était déjà pratiquement fait, au Golavera, on savait qu'ils étaient largement devant de toute façon. Le Paris Saint-Germain, en allant gagner à Montpellier 2-1, c'est sacré, c'est couronné champion de France, alors c'est certes, c'est pas une surprise. Et ça a été fait ce week-end, Emeric.
Oui, ça fait un petit moment que ça se voyait revenir, on va dire, même si on a... On a eu plus de suspense, je trouve, cette saison que les précédentes, hein, pendant relativement longtemps. D'abord Marseille, puis Marseille et Lyon, puis seulement Lyon ont fait illusion. On peut saluer d'ailleurs au passage l'exceptionnelle saison de Lyon, parce que, et c'est un Stéphanois qui dit ça, hein, mais avec l'effectif qu'ils avaient sur le papier au départ, c'était quand même pas gagné. Mais au final, sur la durée, sur la longueur d'une saison, l'inéluctable a fini par arriver. C'est-à-dire que le PSG est tout simplement, sur une durée de saison complète, un rouleau compresseur avec sa profondeur de banc. C'est juste pas jouable pour les autres, quoi.
Vincent.
Oui, je pense quand même, effectivement, bon, il n'y a rien à dire, hein, sur la saison. Paris est au-dessus du lot. Et ce qui a vraiment fait la différence cette année, c'est aussi, effectivement, ils avaient, comme tu as pu le dire, un très bon banc. Malgré, bon, Zlatan a été un peu blessé, mais il y a toujours quelqu'un pour faire le travail derrière.
C'est ce qui a fait la différence, je pense, entre même les 3-4 premières places. Voilà. C'est la longueur, la profondeur du banc parisien par rapport à notamment celui de Lyon, où déjà sur l'équipe titulaire il y a beaucoup de jeunes. Et Marseille est pareil, hein, sur le banc, on a vu que dès qu'il y avait des absents, ça tenait pas la route. Ludo.
Oui, pas de surprise pour ce titre. Hein. Le favori parisien a gagné. Et je suis un peu de l'avis d'Emeric, hein, quand même grosse saison du côté de Lyon. On verra la place qu'ils vont terminer, parce que il y a un sacré duel, surtout avec l'Olympique de Marseille, pour cette deuxième place. Et puis peut-être aussi...
Enfin, troisième, entre Monaco, Marseille et Saint-Étienne.
Et peut-être Saint-Etienne, mais quand même avantage à Monaco et Marseille. Et je crois que le calendrier est plutôt avantage aux Marseillais, hein, d'après ce que j'ai vu. Monaco va à Lorient et
exactement.
Marseille qui reçoit Bastia. Donc ça peut être pas mal pour les Marseillais. Sinon, le titre était déjà acquis pour les Parisiens depuis le début de saison. Pratiquement, hein, le favori, comme on dit, a gagné. Et puis pour eux, je pense maintenant, c'est le triplé historique, championnat, Coupe de la Ligue et la Coupe de France d'ici 15 jours, je crois. Et là,
exactement.
C'est vraiment historique pour eux.
Exactement.
Je pense que cette semaine, les supporters marseillais sont vraiment supporters bretons, en espérant une victoire à Guingampès à Saint-Etienne. Et les victoires lorientaises face à Monaco. Cela étant dit,
Déjà Saint-Etienne, ils regardent moins parce qu'ils ont un goal average largement supérieur. Donc du coup, c'est sûr, eux, s'ils font leur travail à domicile, ils espèrent que Lorient accrochera Monaco. Justement.
Alors, le plus probable est que les positions restent telles quelles, puisque les trois matchs sont quand même largement à la portée des trois candidats au podium. Donc il y a de grandes chances que ça fasse 3 points pour chacun des trois, et que ça reste comme ça.
Par contre, ce que je voudrais dire, c'est que Marseille ne cherche pas forcément la Ligue des Champions, parce que je lisais un article la semaine dernière, quand l'équipe termine troisième, tu as 2 tours préliminaires.
Exactement.
Donc c'est, physiquement, c'est très difficile d'un but de saison. Tu te crames un peu au mois d'août. Donc voilà, donc ça colle.
Il faut voir les effectifs qu'ils auront, c'est ça,
effectivement,
c'est compliqué.
Donc il vaut mieux peut-être faire l'Europa League, jouer
et terminer quatrième, qui qualifie directement pour la phase de groupe pour l'Europa League.
Voilà. Donc
sans aucun barrage, ouais.
Exactement.
Voilà, c'est peut-être plus facile ce qui était écrit dans un article.
Exactement. Et c'est de toute façon, c'est le seul.
Donc, cette année cinquième, je crois aussi sera directement qualificatif avec le
c'est barrage.
Avec le bascule, il y a pas avec la
cinquième
bascule.
Cinquième et sixième.
Place...
Cinquième, sixième, c'est barrage.
Parce qu'il n'y a pas une place qui est rebasculée de la Coupe de France avec la.
Oui, oui, elle est rebascule pour la sixième place, mais les deux sont
avec barrage.
Les deux sont avec barrage. Donc, du coup, c'est vrai que ce sera barrage. Et pouf, je pense que pour Marseille, effectivement, le mieux, c'est de finir quatrième. Mais évidemment, sportivement, il faut aller la chercher, cette troisième place. Effectivement.
Et puis, attends, il y a quand même un écart aussi de 20 millions d'euros aussi entre une Ligue des Champions et une Ligue Europa.
Mais on le répète, possible. Parce
que
n'oublions pas que Lille, par exemple, l'année dernière, s'était fait sortir par Porto en troisième tour. Résultat des courses, on fait un budget avec budget Ligue des Champions à laquelle on participe pas. Enfin, c'est compliqué.
Et ce qu'il faut dire, c'est qu'au second tour du tour, donc au second tour préliminaire,
oui, on tombe contre gros.
Soit un club italien, oui. Donc ça risque d'être, par exemple, la Lazio, soit un club anglais, soit un club espagnol.
C'est vrai, c'est un gros. C'est un gros,
donc aucune certitude d'aller en Ligue des Champions. Par contre, si on va directement en phase de groupe de l'Europa League,
Déjà, ça
ouais, on va sur le gâteau. Hein, parce que...
Moi, je suis pas trop d'accord quand même. Hein, parce qu'il vaut, à mon avis, il vaut mieux faire deux tours de phase préliminaire de Ligue des Champions. Prendre un gros, ça remplit le stade, ça fait de la billetterie aussi. C'est quand même sympa pour tout le monde. À la limite,
y a 20
si, c'est que ça, si c'est que ça, tu te prépares pas pour. Et puis voilà, tu perds. C'est pas mal. Non, mais l'Europa League, ça fait rêver personne. Même si t'es qualifié directement en poule, tu te tapes. Trois déplacements au fond de l'Ukraine. Enfin, je suis pas sûr que ça fasse beaucoup de bien hein, par rapport à la Ligue des Champions, même si c'est que possible.
Ouais, il faut quand même essayer de jouer cette Europa League sérieusement. Hein.
Bah oui.
Parce que, on a bien vu quand même Saint-Etienne en début de saison. Ça n'a pas été terrible du tout. C'était bizarre. Ils auraient pu aller très loin dans cette compétition. D'ailleurs,
bah quand on voit que Dnipropetrovsk.
Voilà, c'est ce que je voulais dire. Dnipropetrovsk est en finale de la.
Mais justement.
De la Ligue Europa, ils étaient dans la poule de Saint-Etienne. Mais bon, ça fait bizarre quand même. Ils ont fait que des matchs nuls. Ils ont pas pris de but, mais ils en ont pas marqué non plus. Donc. C'était un peu bizarre pour cette équipe de Saint-Etienne.
Si on avait fait ça qu'en Europa League, on serait en train de se battre pour la deuxième place et pas pour la troisième à l'heure actuelle, hein, de ne pas marquer de but. Hein.
Allez, bien, de toute façon, il manque pas longtemps. La semaine prochaine, on sera tout. On pourra reparler de cette bataille de troisième place puisque c'est le seul enjeu qui reste.
Tout
le reste est joué. Et ce qui s'est joué ce week-end, alors là aussi, il y avait 4 points de retard, c'était pratiquement fait. C'est la descente d'Evian et donc le maintien de tous les autres clubs qui étaient en concurrence.
Toulouse.
Reims et notamment Toulouse avec ce nouvel entraîneur Rivagé qui, du coup, aura sauvé le club et pas grand monde y croyait. Et c'est Evian qui, à force de flirter, avec la descente cette année, ça a été pour eux. Quelqu'un veut réagir sur Evian, non? Plutôt content que Duprat descende, non?
Oui, on va pas quand même se satisfaire de la descente d'un club, mais effectivement, vu les dernières saisons et cette saison, c'est logique.
C'est logique, ça.
C'est logique, je veux dire, bon, ils ont un effectif restreint. Même Reims, qui est quand même pas non plus une très grande équipe, ils se sont sauvés, mais il y avait un écart. Cette année, je trouve que le championnat, c'est un championnat de vitesse, et notamment par rapport à la fin. Les trois derniers, c'est inéluctable, quoi.
Il y avait bien qui a tenu le coup. Alors, pratiquement jusqu'à la fin.
Moi, ce que je dis, c'est par rapport quand on voit que pareil l'année prochaine, trois Ajaccio montent.
Trois,
c'est un club qui a une histoire, quand même.
Sans enchaînement, directement, on passe de la Ligue 1 à la Ligue 2, c'était prévu qu'on en parle un tout petit peu, avec cette montée du Gazélec d'Ajaccio. Effectivement, une montée en Ligue 1 non préparée, on voit avec l'autre club d'Ajaccio, la CA qui a passé en Ligue 1 et qui maintenant joue quand même la descente en Pro Ligue 2. Des fois, c'est compliqué, mais effectivement, on peut pas. Quand on l'a, la montée, on l'apprend.
On l'apprend, et puis une fois de temps en temps, ça fait une belle histoire.
Nico.
Il faut surtout essayer de faire en sorte que si on doit redescendre pas longtemps après, ne pas redescendre plus bas. Parce que moi, il y a beaucoup d'exemples ces dernières années, des exemples assez dramatiques, hein, que ce soit Istres, que ce soit Grenoble, que ce soit encore...
Et plus avant, Sedan, Le Mans...
Sedan, ça a duré longtemps quand même. Ils sont restés longtemps en Ligue 1, ils ont même fait des 5 ou 7e places, je me souviens, à l'époque. Mais attention à la chute, hein, parce que là, on le voit, hein, tous les Auxerre, les Valenciennes qui peut descendre en National, hein, le week-end dernier, ils sont pas les moins bien placés, mais ils vont avoir un match difficile pour la dernière journée. année. Il peut se passer des trucs vraiment très compliqués. On connaît le destin de Strasbourg aussi, ouais. Le Mans.
Strasbourg, Strasbourg, c'est pas la même histoire. C'est un historique de Ligue 1 aussi.
C'est pas la même histoire, non, non. Mais c'est vrai. Plutôt Grenoble et Istres alors.
Les grands clubs peuvent aussi avoir des passages super difficiles. Je veux dire, Saint-Etienne, à un moment de son histoire, est passé même pas très loin de la relégation nationale. Toulouse, il est allé y faire un tour.
Ouais, mais c'est des plus grandes villes avec plus d'histoire, Ludo.
Ouais, Bordeaux aussi, qui était redescendu en Ligue 2. Pour l'instant, Marseille.
Ça, c'est des gros, c'est grandes villes.
Oui, mais pour comparer, on est plutôt sur Grenoble, Évian, Istres. Évian, là, c'était la première. Ouais. Bon, faut pas qu'il descende à la nationale. Istres, ils sont finis par descendre aussi. Mais Grenoble, ils ont essayé de se structurer, ça n'a pas marché.
Qui profite
Ouais, Ludo. Dire que ça, il y a eu Guignan, vainqueur de la Coupe de la Ligue au début des années 2000, en Ligue 1, et puis là, je sais même plus en quoi ils sont, quoi.
Guignan est monté en Ligue 1.
Oui, ils sont très très bas, hein.
Ben, il y a Perpignan,
Perpignan qui était monté jusqu'en Ligue 2 puis qui s'est reparti en DH. Enfin, il y a des clubs qui meurent comme ça. Hein. Donc,
il y avait eu Calais qui avait fait un super ascenseur aussi.
Je suis pas sûr que Gognon soit monté en Ligue 1, mais
on vérifiera. Mais pour le moment, les gaziers, faut pas qu'ils y pensent à ça.
Évidemment. Ils sont tout à leur tête.
Ah, vous pouvez les appeler les gaziers.
Bah ouais. qui profite. Ils verront bien ce que ça donne. Effectivement, peut-être qu'ils prendront une grande claque, mais parfois, de temps en temps, ça se transforme en belle histoire aussi.
Oui, alors, je suis d'accord avec toi. Mais enfin, sachant qu'ils avaient quand même le plus petit budget de Ligue 2, je les vois mal à Ligue 1 tenir financièrement. Moi, ça m'inquiète vraiment.
Ils l'ont gagné leur place ou pas?
Non, mais ils l'ont gagné.
Ça a été préparé. Et c'est préparé parce que leur stade, même qu'il soit très petit, comme on en a
parlé.
Exactement, on en parlait avant l'émission. Il est aux normes. Voilà. Donc,
qu'en pensent les deux autres clubs de Corse? Et Bastia et Ajaccio.
Ah ben.
Là, c'est Ajaccio quand même Simon. A félicité le GFCO.
Bon. Voilà, exactement, ils se félicitent. Bon, c'est un peu la guéguerre. C'est quand même le club d'Ajaccio le plus populaire, hein, le Gazélec. Comme je disais, petite anecdote.
C'est ça qui fait peur.
C'est une fusion entre. À la base, c'était une équipe de Corpo. Bon, il y a plus d'une. Bon, je sais pas combien de dizaines d'années entre le Gaz de France et l'électricité. Hein, c'était une fusion. C'est devenu le Gazélec d'Ajaccio. Et c'est devenu le club le plus populaire d'Ajaccio. Et on les verra, du coup, l'année prochaine, à Toulouse. Ils recevront à Paris. Pour eux, c'est une extraordinaire aventure. En tout cas, Ludo.
Oui, c'est formidable là, pour eux. Mais c'est vrai que le match était à la télé, là, je crois, vendredi soir, le match de Normandie. Et c'est vrai, vu l'état du stade, enfin, un très petit stade.
Ouais, c'est juste que c'est très petit.
Des dérogations pour accueillir... les futurs matchs de Ligue 1.
Il va être augmenté un petit peu, mais pas beaucoup.
C'est bizarre, mais bon.
Il n'y a pas besoin de dérogation. Il est aux normes. Ouais. Il est aux normes. Le seul truc auquel il ne satisfait pas, qui est la taille, c'est une simple recommandation. C'est pas une obligation. Donc, d'un point de vue des obligations strictes du règlement, ce stade est aux normes. Donc, il n'y a aucun problème.
Ouais, et attention aux équipes qui vont se déplacer parce que ça sent le piège Coupe de France à chaque journée quand même. Il va falloir aller se méfier. On sait que c'était déjà pas facile d'aller jouer à Bastia notamment, même quand ils étaient pas au mieux.
Clubs corse,
ça sera pas simple d'aller jouer au Gazélec, mais on aura le temps. Nico,
petite parenthèse, en effet, Guignan est bien monté en D1 en 95-96. J'en avais aucun souvenir.
T'étais en CP,
j'étais pas grand, mais par contre, je me souvenais bien de la finale victorieuse en Coupe de la Ligue avec Dominique Casagrande, tout ça.
Donc, l'année prochaine, on pourra parler du Gazélec puisqu'ils seront en Ligue 1. Allez, on passe au petit débat.
Et peut-être Angers aussi, hein. En Ligue 1 la semaine prochaine.
Il ne faut pas que j'y botte.
Qui c'est que tu veux?
J'ai
lu un article la semaine dernière où la Ligue se pose la question: est-ce qu'on ne va pas faire monter, enfin, deux descentes, deux montées? Et je trouve que ça serait une bonne solution.
Moins de changements.
Parce que si on regarde. Si
interdit à les monter, Vincent.
Non.
Si on regarde les statistiques ces dernières années, sur trois équipes de Ligue 2 qui montent, il y a toujours deux la charte l'année suivante. À quoi ça sert?
Mais ils ont gagné la chance d'y être. Non, je suis pas d'accord quand même.
Oui, Nicolas, ok.
Ça sera l'occasion de notre débat parce que sinon on va pas avoir le temps de parler de trophées UNFP qui nous ont quand même.
Scier les jambes.
Mais ça, c'est nul. Ça, c'est franchement nul, les trophées UNFP.
Tu vas pouvoir le dire. Mika, tu vas pouvoir le dire.
Mesdames, messieurs, chers collègues, la séance est ouverte.
Ça, c'est une musique de Raoul Petit, ça, vous le savez pas, monsieur.
Et alors?
Après, c'est remixé. Les trophées UNFP.
Allez, Nico, pourquoi c'est nul?
Les trophées UNFP, c'est nul parce que déjà le Ballon d'Or, c'est nul aussi. Non, parce que les trophées UNFP,
le foot,
franchement, je sais pas quelle est la réelle valeur de ces trophées. Est-ce que le meilleur joueur de Ligue 1, c'est la Cazette?
Déjà, il faut savoir qui vote.
C'est qui vote?
C'est les
entraîneurs.
Non, c'est les joueurs.
Les pères des joueurs, les parents.
C'est leur père en français. Et donc, c'est-à-dire, c'est les joueurs pour les joueurs et les entraîneurs. Les entraîneurs.
D'accord.
Donc, il y a pas de.
Et les joueurs, tous les joueurs.
Et
30 donc... chaque effectif?
Ah, ben, tout le monde vote. Donc, du coup, ceux qui ont voté. Ben, c'est Lacazette, donc, qui a été élu meilleur joueur de Ligue 1. Alors, ouais. On peut toujours se poser les questions.
Ben, déjà, les Marseillais.
Il n'est pas dans la meilleure.
Il y a les Marseillais
hein.
qui votent pas pour Paris, déjà. les Lyonnais, ça fait
possible,
le compromis.
Oui. Ludo, qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, les trophées UNFP, c'est bizarre. Moi, je suis de l'avis de Nico, parce que. C'est pareil que le ballon d'or, quoi. Enfin, pour avoir le ballon
voilà.
d'or.
Trophée individuel dans le sport collectif.
Faut même pas être le plus bon des joueurs. Faut être le plus beau des joueurs, hein, comme ça. Et on lui donne le ballon d'or, et puis voilà.
Ah, parce que la Cazette est le plus beau, du coup, Ludo.
Le plus beau du ballon d'or, hein. Le ballon d'or, rappelez-vous, hein, il y a deux ans, ça aurait dû être Ribéry.
Ouais, mais le ballon d'or, c'est encore autre chose, parce qu'il y a des journalistes qui votent, c'est journalistes, et c'est encore un peu différent. Et des joueurs, et c'est encore un peu différent, puisque c'est dans tout le monde. Donc, on peut savoir, est-ce que les îles Cook, par exemple, le sélectionneur des îles Cook suit toujours les championnats européens. Je sais pas.
Tandis que là, c'est vraiment. Son temps à la plage, le mec.
C'est vraiment des joueurs qui jouent avec eux tout le long de la saison. C'est un peu plus objectif, je trouve, Vincent.
Après, moi, je pense que c'est...
Par exemple...
Pour les avoir regardés un peu
Attends.
Hier...
Vas-y, Ludo.
Par exemple, le trophée du meilleur entraîneur, pratiquement chaque année, on le donne à l'entraîneur qui a coaché l'équipe qui devient championne de France.
À peu près, mais bon, ça...
Sauf l'année dernière, je crois que ça a été Galtier, il y a un an ou deux ans, l'entraîneur de Saint-Etienne, mais sinon, c'est à peu près ça. Hein. C'est comme pareil, par exemple, dans le rugby, le meilleur coach qui va être élu, c'est le coach qui va être... dont le club va être champion de France. Hein. C'est un peu pareil. Enfin, il y a des trucs un peu bizarres.
Oui, moi, je pense, effectivement, je rejoindrai un peu Nicolas, ça n'a aucune valeur. C'est plus la fête du football. Voilà, le championnat est quasiment fini.
Cool.
On fait une petite soirée à Paris, entre amis. Allez, bon, on va faire
jaloux.
Petit... On va faire travailler un peu les médias, Bein Sport avec leur belle présentatrice. Puis voilà, quoi. Après, on fait la fête entre nous. Viens, voilà, c'est pas.
C'est qui, Stan Lorbonnet?
Surtout c'était Anne Lorbonnet.
Ah, j'ai loupé ça.
Voilà, effectivement. Bon, il y avait eu ça
pas ouais, coup de boule d'ailleurs à Bein Sport parce qu'Anne Lorbonnet n'est plus sur le Giro. Je suis pas content.
Voilà. Non, mais effectivement.
Les mecs se mouillent pas d'un poil, effectivement. Comme tu dis, chaque année, l'entraîneur qui est quasiment chaque année l'entraîneur élu et l'entraîneur champion de France, le meilleur joueur et le meilleur buteur. Je veux dire, à ce moment-là, pourquoi élire des mecs en plus, quoi? Il y a pas un pet d'analyse. Justement, tu dis que c'est parce que c'est les joueurs qui votent que c'est plus objectif. Bon, on est l'idée copine, quoi.
On a le temps de la reparler. On va faire la petite pause, on est obligé. Mais on n'a pas fini sur les trophées UNFP. Hein. Donc, restez à l'écoute. On va faire une petite pause. Et après, n'oubliez pas, de toute façon, il y aura du rugby. Il n'y a pas de souci avec les coups de gueule, les coups de boule, du débat. Il n'y a pas de problème. Allez, on se retrouve de suite.
Du pâté, du vin, tout ce qu'il faut.
C'est ta radio.
Pop.
Rock.
Sport.
C'est ta radio.
Pop.
Rock.
Sport.
Pour 19h22 de retour dans Il va y avoir du sport sur CETA Radio avec toute la team. Yvon est en train de débattre de ce qui se passe autour des trophées UNFP.
Exactement. Donc voilà, pour clôturer un petit peu ce débat. Alors pour vous, ça n'a c'est la fête, mais pour, c'est sans plus, quoi.
Pour terminer ce que je disais, oui, effectivement, le fait justement que ce soit les joueurs qui votent donne encore moins de valeur au truc. Les mecs qui s'en foutent, ils votent entre eux, ils votent pour les copines, ils prennent pas un pet de risque. Quand tu compares ça au Ballon d'Or époque justement où les journalistes votaient, parce que maintenant c'est plus le cas, c'est les sélectionneurs et tout qui votent. Justement, t'avais un peu plus de prise de risque, t'avais un poil d'analyse, de réflexion dans le truc, ce qui a fait que ça a pu arriver, même si majoritairement c'est les attaquants, ça a pu arriver de temps en temps sur l'ancienne formule, d'avoir un défenseur, d'avoir un milieu, d'avoir même une fois un gardien. Maintenant, c'est juste un compteur à but. Et ben les trophées UNFP, c'est pareil, c'est un compteur à but, ni plus ni moins.
Comme il y a plusieurs trophées, du coup c'est pas qu'un compteur à but.
La prise de risque est la même. Je veux dire, meilleur entraîneur, tu prends le champion et puis basta. Tu prends aucun risque, tu te mouilles pas. Tu peux pas te mouiller.
Regarde, le meilleur gardien, c'est Mananda et il en a pris des pions.
Oui, bien sûr.
Oui, mais
ce que je veux dire, c'est que tu ferais voter les journalistes qui n'ont pas le truc de se dire bah peut-être il faut que je fasse gaffe, peut-être que je vais jouer avec lui ou peut-être qu'un jour il va m'entraîner. Tu peux peut-être avoir un poil de réflexion et te dire voilà, bah pour l'entraîneur par exemple, moi j'aurais bien vu
Jardim.
Non, pas Fournier. Si Jardim, Fournier, voire
Gourvennec,
ouais, tout à fait. Ouais. Les mecs qui ont réussi à faire vraiment des trucs avec pas grand-chose, tu vois, des choses comme ça, côté meilleur joueur, aller regarder un petit peu du côté des créateurs. C'est vrai que Lacazette fait une grosse saison, c'est pas choquant qu'il y soit, mais il y a peut-être un petit peu de réflexion à avoir derrière,
c'est
aussi
pas
quoi.
Choquant. Nico, oui, pour clôturer,
je pense qu'il faut pas non plus trop qu'on critique, parce que c'est plutôt cohérent. En effet, les résultats ne sont pas trop critiquables pour autant.
Blanc n'a rien à foutre là, je suis désolé.
Bon, après, ça n'a pas été le plus mauvais entraîneur de Ligue 1, vu qu'il est champion.
Ça a été loin d'être le meilleur. Un Gourvennec est vachement au-dessus.
Non, c'est l'entraîneur de Lyon qui a fait des miracles cette année.
Fournier, effectivement.
Bah, en tout cas, Lacazette, c'est pour soutenir la vitrine franco-française, oui. T'as mieux. Et puis, Ibrahimovic et tout n'ont pas été au top. Et enfin, concernant, vous parliez de, j'ai oublié qui, de Mandanda, bah, c'est pour l'aider à trouver un contrat en Angleterre.
Peut-être Ludo, pour clôturer.
Ouais, juste pour clôturer, est-ce que les trophées existent au niveau Ligue 2?
Oui, ah bah oui,
il y a
le palmarès.
Il y a meilleur joueur de Ligue 2, meilleur entraîneur.
Est-ce qu'il y a le palmarès de l'entraîneur?
C'est Furlan.
C'est 3.
C'est Furlan qui a été l'entraîneur de 3.
Le meilleur goal aussi.
Ouais, ben.
C'est Furlan aussi.
Dis-moi, le goal de 3.
Donc pour moi, je voulais quand même, comme je parle rarement foot, moi c'est rugby ma spécialité, ben un petit hommage quand même à Corinne Jack, parce que un coach, et ben c'est, elle a pas beaucoup de moyens, hein, c'était le, je sais pas, l'avant-dernier budget de Ligue 2, et elle a réussi à maintenir clairement foot.
Exactement.
Mais elle a pas été virée en cours de saison.
Non.
Et elle a même fait, mieux que tous les coachs garçons qui sont précédés à la tête du Clermont Foot avant elle. Elle va terminer, je crois, 12e du championnat et avec un petit niveau. Et en tous les cas, elle a réussi à les maintenir. Et en tous les cas, elle a tapé du poing sur la table parce qu'il y a certains joueurs qui ne foutaient rien à l'entraînement. Elle n'a pas hésité à les virer et même.
Et elle a eu bien raison.
Dans le manager général qui faisait ici en Auvergne, et la une des journaux tous les jours, elle a pas hésité à lui rentrer dedans et lui, on l'entend plus depuis le mois de janvier. Donc, félicitations à Corinne Jacques et avec un bon recrutement.
Et espérons que ce sera pas la dernière.
Et j'espère, et en tous les cas, voilà, la première expérience d'une femme coach dans le football professionnel, c'est bien
une réussite.
Clairement, donc voilà, félicitations à elle.
Et je terminerai en disant qu'elle aurait mérité un trophée.
Ah oui, même d'honneur.
Exactement,
ou un vrai trophée.
Meilleur entraîneur féminin.
Bref. Allez, on clôture là la partie football. Et puisque tu l'as dit toi-même, Ludo, ta spécialité, c'est pas le foot. Donc par contre, là, on compte sur toi pour, parce que évidemment, c'est maintenant, on va parler rugby.
Bonsoir, chers amis. La rubrique rugby.
Grosse actualité rugbystique ce week-end avec l'avant-dernière journée de Top 14, les barrages en Pro D2. Demain, c'est la liste des 36 joueurs, si je ne me trompe pas, Ludo, que va donner Saint-André pour la préparation à la Coupe du Monde. On est en train d'interviewer les 8 les 8 candidats aux sélectionneurs de cette équipe de France post-Coupe du Monde.
Et d'ailleurs, Yves, t'as pas été interrogé, toi?
Pas moi. Il y en a
Nico est parti là-bas, il est en interview là-bas.
Un présentateur radio qu'il a été.
Oh, c'est pas vrai,
mais pas moi.
Sélectionneur.
Ludo, là, on parle rugby, hein, en ce moment.
À la actualité chargée, ouais. En fait, non, des 36, hein, t'as raison.
Hein, 36, hein, parce qu'après, ce sera réduit à 31, demain, c'est ça?
Voilà, ouais, exactement, ouais. Donc 36 demain et un peu plus tard, 31. Et puis le nom du futur sélectionneur qui devrait intervenir là, d'ici la fin, d'ici la fin du mois. Hein.
Ouais.
Peut-être qu'ils vont tout nous annoncer demain, hein, ça sera terminé.
Ouais.
Et puis encore, et le top 14 qui est passionnant, et la Pro D2 aussi, les barrages d'accession. Enfin, l'actualité est chargée en rugby. Par quoi on commence, Yves?
Par le championnat, on va commencer par le top 14. Et le choc qui... alors on n'en était pas un, parce que c'était... l'équipe de Toulon avait fait tourner un petit peu, mais on a quand même eu une belle rencontre avec la victoire de Clermont 20-19, mais une victoire finalement qui les arrange pas, puisque Toulon reste en tête et a son destin entre les mains pour finir premier lors de cette dernière journée, Ludo.
Ouais, belle rencontre. Ouais. Moi, je sais pas. Moi, je me suis ennuyé devant ça. J'ai eu des supports. Pour une fois, j'étais pas au stade, hein, pour raison professionnelle.
Ah, mais c'est pour ça, c'est pas pareil. T'as l'habitude de le voir au stade.
C'est pas pareil, c'est pas pareil. Je les encourage pas, donc ils les donnent pas sur le terrain. Non, mais hier, une piètre équipe clermontoise. Enfin, je sais pas. J'ai eu des échos de supporters dans le stade. Même le stade a ronronné. D'habitude, il y en a une ambiance extraordinaire. Là, ça a été pas terrible du tout. Même des sifflets à la fin du match lors des départs de certains joueurs. La pression monte très fort du côté des supporters. Ici à Clermont, ce qu'on appelle la Yellow Army généralement, c'est convivial, c'est sympa, ça se déplace en nombre, ça dit jamais rien, mais je crois que là les supporters sont très remontés et le match d'hier n'est pas fait pour rassurer en cette fin de championnat, parce que vaincre une équipe de Toulon, d'accord, mais c'était l'équipe C,
exactement, c'est ça surtout.
MC, quoi, je veux dire, il y avait des joueurs qui faisaient leur premier match, d'ailleurs coup de chapeau au jeune Méric, le demi de mêlée, il est rentré à 10 minutes de la fin. Il a pas tremblé pour passer la transformation de l'essai de Tuissova à 3 minutes.
T'as un coin en plus, hein.
La sirène.
Oui.
Elle était en coin, pas facile. Il a pas tremblé et grâce à cette transformation, ben Toulon arrache le bonus offensif défensif qui va être très important pour eux, voilà. Et comme on dit des fois, il y a des mercenaires du côté de Toulon, et ben non, là c'est la preuve que non. Toulon forme aussi ses joueurs, voilà. Enfin, je suis très remonté contre Clermont aujourd'hui, donc voilà.
Oui, parce que t'entendre dire des louanges de Toulon, c'est pas tous les jours, hein.
oui, c'est bien, mais c'est vrai là, c'est voilà, ils ont aussi un bon centre de formation à l'instar des Clermont et des Toulouse,
bien sûr.
Même si c'est vrai que dans leur équipe une
il y a
pas de galactique, hein, comme on dit, mais bon, ouais. Voilà, félicitations à l'équipe, moi j'appelle ça l'équipe 3 de Toulon qui s'est déplacée hier à Clermont, et clairement ça a été très pauvre dans le jeu, il y a des joueurs qui sont plus à leur niveau, j'ai peur que comme chaque fin de saison, et ben
ça
devient inquiétant et ça finisse en autre boudin. Bon, la qualif pour Clermont c'est fait, hein, ils seront
ça.
Premier, deuxième ou troisième, donc minimum barrage à domicile ou demi-direct, c'est tellement compliqué de faire les calculs.
Exactement, alors pour l'instant, alors on va pas tout expliquer, mais en ce moment, à l'instant T, à une journée de la fin, premier, deuxième qualifié directement Toulon et Clermont, premier Toulon, deuxième Clermont avec 71 points, mais le troisième c'est le Stade Français. Donc s'il y a un faux pas des deux premiers, le Stade Français gagne la semaine prochaine, ben il y en a un des deux qui saute. Hein.
Et Ludo, justement, je voudrais avoir ton pronostic par rapport à ça, parce que la semaine prochaine,
Parle le micro.
Pardon. Oui, la semaine prochaine, j'ai regardé un peu le calendrier, nous aurons un alléchant Brive Stade Français. Est-ce que tu penses que... Quel est ton pronostic? Parce que là, tout est possible. Hein. Brive joue le maintien, Stade Français joue les deux premières places. Et après, bon, Montpellier, Clermont, on peut espérer que vous alliez gagner, enfin, que Clermont aille gagner à Montpellier, mais pour toi...
Si Clermont va gagner à Montpellier, c'est plié. Le premier, deuxième, c'est... C'est ça, non, Ludo?
Oui, c'est plié. Une victoire de Clermont à Montpellier, c'est plié, même si le Stade Français revient à égalité.
Mais c'est pas fait.
Après, c'est pas
fait.
C'est pas fait
d'aller gagner à Montpellier.
C'est pas fait, mais moi aussi, hein. Moi, je vois une victoire de Montpellier à réaction d'orgueil, dernière journée à la maison avec leur nouveau coach. Ils vont vouloir se surpasser, montrer qu'ils valaient mieux que cette. Ils vont terminer quoi, 8e, quoi. Donc, ils vont tout donner. Hein. Moi, je vois victoire de Montpellier, mais par contre, Brive, Stade Français, va tout jouer sur ce match. De toute façon, il n'y a plus que ça à faire. Je vois peut-être victoire de Brive aussi. Hein.
Ouais, Brive, tu penses que Brive, ouais.
Ouais, ça serait la surprise, ouais, mais bon.
Et qui leur permettrait normalement de se sauver. Donc, parce que, voilà, le haut, c'est intéressant, mais il y a aussi la relégation avec encore, Bayonne et Brive qui sont à la NAS et malheur vaincu la semaine prochaine. Hein. Parce que Bayonne joue à domicile, c'est ça, contre La Rochelle, il me semble.
Contre La Rochelle, ouais, tout à fait.
Exactement. Et Brive reçoit Stade Français.
Ouais, précision. Même une victoire de Brive, une simple victoire par 4 points, ne sauvera peut-être pas le club briviste, puisque si Bayonne gagne avec le bonus offensif contre La Rochelle, chose qui peut se passer, hein, je pense, avec le feu à Jean Daugé, ils vont tout donner pour avoir le bonus offensif. Si Bayonne gagne avec le bonus offensif, Bayonne est devant au goal average particulier, et ça serait Brive qui descendrait, et nous, la fin, pour clairement, la fin du derby du Massif Central.
D'ailleurs, une nouvelle
aujourd'hui pour les...
Oui.
Vas-y, oui, Vincent.
Oui, je pense quand même que Bayonne quand même va battre La Rochelle, ça serait autrement. Ouais.
Oui. Donc oui,
il faut le bonus offensif.
Avec le bonus offensif, sans problème. Hein. La question se pose même pas. Hein.
Ouais. T'as beaucoup vu jouer Bayonne cette année, parce que.
Ouais,
La Rochelle,
la Rochelle, la Rochelle, la Rochelle joue rien du tout.
Bon. Ludo,
une petite valise.
Si, moi, je vois Bayonne aussi mettre le feu à tous les coins du terrain. Ça va y aller, ça va galoper. Ils l'ont fait il y a un mois. Ils avaient, on va dire, fait exploser Grenoble hein, avec bonus offensif pour eux. Donc, ils peuvent le refaire sur un dernier match, une finale pour eux. Et en plus, je ne sais pas si vous avez vu l'actualité cet après-midi, mais le projet de fusion Biarritz-Bayonne tombe complètement à l'eau. Le président
comme tous les ans.
Voilà, comme tous les ans. Mais le président bayonnais a mis fin aux, on va dire, aux négociations. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais voilà, donc il n'y aura pas, peut-être jamais, hein, je pense que c'était pour moi la dernière chance de fusionner Bayonne et Biarritz, il n'y aura peut-être jamais de fusion entre les deux clubs basques. Et ça va contenter, ça va satisfaire les supporters de Bayonne qui étaient contre cette fusion et ils vont être super contents par le stade samedi prochain. Je peux vous dire que ça va chanter et pousser fort derrière Bayonne. Je vois Bayonne avec le bonus offensif contre La Rochelle et malheur à Brive, quoi.
J'ai l'impression que dès qu'il y en a un qui sent qu'il va se maintenir et que l'autre va tomber, il met fin au débat pour rester tranquille tout seul. Dès qu'ils sentent que ça sent le cramoisi, ils essaient de se mettre ensemble. Sinon, bon, allez, on va rester seul.
C'est négocié ça une petite semaine, ça, c'est pas bon.
Parce qu'à eux, c'est.
Tout cas, pratiquement sans transition, on a parlé de top 14, évidemment, on y reviendra avec les résultats la semaine prochaine. Mais on voulait. Vas-y, dis-moi, Ludo, t'as un truc à dire encore ?
Un dernier point. Ouais. Oui, c'est juste Castres qui se sauve en gagnant ce week-end 32 à 12. Donc voilà, ils sauvent. Il y a quelques mois, on les mettait en Pro D2 direct. On ne sait pas comment ils ont fait pour sauver, mais enfin, ils ont bien enchaîné durant cette dernière journée. Et justement, il y a Aubin qui nous suit sur Twitter. Il y a un mois, il nous avait dit que Castres se maintiendrait. Hein, il avait laissé un mot sur Twitter, il va y avoir du sport.
Et voilà, il a eu raison.
Aubin, un petit dédicace à toi. Il a eu raison, Castres se maintient. Et on fait coucou à Aubin qui nous
suit. Il y a un t-shirt dédicacé.
Voilà, depuis Castres, il nous écoute. Hein.
Ça
voilà.
Roule.
Et il sera avec la team Radio Vélo sur la Ronde de l'Isard.
Ah bah t'es. Alors.
Exact,
toi. C'est pareil. Il pourra lui dire de vive voix.
Et elle a gagné le t-shirt de Yves aussi.
Il pourra lui dire de vive voix. Et donc, en tout cas, Castres n'aura pas le plaisir de jouer contre. Le malheur de jouer contre Perpignan. Perpignan qui était favori lors des barrages. On passe évidemment en Pro D2. C'était les barrages pour savoir qui va accompagner Pau l'année prochaine en top 14. Alors. Pour ceux qui ne savent pas, là c'est les demi-finales de barrage et puis après il y a les finalistes qui se rencontrent pour voir quel est le club qui y va. Et le gros match c'était Perpignan-Agen à Aimé Giral, et c'est un match nul, c'est tellement en rugby, 32 partout après prolongation, mais là c'est le vainqueur, c'est Agen pour le nombre de d'essais marqués, Ludo.
Ouais, et puis
et quel match.
J'ai discuté hier après-midi avec Vincent, là, on s'est parlé au téléphone.
On prépare l'émission,
on
les deux.
Au téléphone pour préparer l'émission, oui, on est très sérieux. Et on a dit, mais Perpignan va exploser à Agen, c'est pas possible, Agen peut pas se qualifier du côté d'Aimé Giral. Et ben, Agen a fait l'énorme.
Vous avez vu le nez creux, quoi.
Ce week-end, ils ont gagné à Aimé Giral. Enfin, ils ont gagné, non, ça fait match nul. Voilà. Nombre d'essais, 4 essais à 2. Ouais. Voilà, c'est eux qui vont jouer la finale d'accession en top 14. Et un match vraiment somptueux. Moi, j'ai vu un essai de 80 mètres, une relance. Oui. Dans l'embute des Agenais, et je crois que c'est Paris qui marque, il marque deux essais, mais celui-là à 80 mètres, enfin, époustouflant, fallait le faire, très bonne perf d'Agen aussi, qui revient dans le match, ils étaient menés de 6 points, donc à 6 minutes de la fin, et ils ont pu avoir les pénalités pour revenir voilà, dans le match, à 6 minutes de la fin, il reste plus de 3 points, et ils égalisent vraiment à 2 minutes de la fin, coup de chapeau à Agen, et leur buteur, la garde, voilà, Paris, et ça va faire une très belle finale face à Mont-de-Marsan.
Exactement, puisque dans l'autre demi-finale, c'est Mont-de-Marsan qui avait fini deuxième, hein, Mont-de-Marsan, et qui a battu Albi 22-8. Donc effectivement, ce sera un Mont-de-Marsan-Agen qui se rejouera à Toulouse dimanche prochain pour l'accession, pour voir qui remportera ce Graal de monter en top 14.
Après, il faut dire quand même que cette Pro D2 est très difficile.
Très difficile.
Quand on voit quand même que des clubs comme l'USAP, le BO, qui n'arrive pas à remonter, on peut se poser des questions, quoi, parce que c'est vrai que c'est pas facile, quoi.
Le fait d'avoir resserré l'élite dès qu'elle descend, c'est compliqué, hein.
Oui, et puis bon, après, mais elle est quand même assez homogène. Je trouve que la Pro D2 était quand même.
C'est du bon, enfin, le haut niveau, c'est le panier de.
Alors, on peut, l'année prochaine, le public sera moins gâté, hein, puisque, les télés ont décidé de mettre les matchs de vendredi. Mais c'est vrai qu'on a vu quand même du beau rugby cette année. Moi, je suis régalé.
Mont-de-Marsan, Agen, Ludo. Alors quel est le favori? Parce que dans la saison régulière, ça a été plutôt Mont-de-Marsan qui a fini devant, même si c'était assez serré. Mais est-ce qu'on peut souhaiter quand même qui fera la meilleure bonne figure l'année prochaine. Est-ce que Agen n'a pas plus les règles un peu plus solides comme on demeure ça, parce que si c'est pour faire comme Lyon et faire l'ascenseur.
Ben malheureusement, je crois qu'on va faire le parallèle avec le foot, là, qu'on a parlé en début d'émission. Hein, généralement, au foot de la Ligue 2 à la Ligue 1, quand tu montes, et ben la saison d'après, tu redescends presque automatiquement. C'est un peu le cas, malheureusement, au rugby aussi. Hein, Lyon
est monté l'année dernière.
Ils redescendent.
1 sur 2.
Et là, que ça soit Mont-de-Marsan ou Agen, malheureusement, on peut prendre des paris. Ils tiendront pas en top 14.
Pour par contre,
c'est différent.
Ouais, oui. Bon recrutement apparemment. Mika.
Agen a battu Mont-de-Marsan deux fois dans la saison régulière, ouais. Hein, à noter. Ils sont allés gagner là-bas aussi.
Mais bon,
petit ascendant.
Agen, on le sait, pour le suivre un peu, il y a plus d'argent, quoi.
Donc, mais d'argent nulle part.
Il y a plus d'argent. Bon, peut-être Francis va nous aider, Cabrel, mais bon, non, il y a plus d'argent. Alors, Mont-de-Marsan, je n'ose même pas demander. Et c'est vrai que, comme tu dis, Ludo, on croit que l'année prochaine, on se trompe pas trop en disant que un des deux retournera une année au purgatoire. Hein.
Puis comme on dit, depuis le temps que je patiente, en pro des deux.
Exactement. Bon, on en parlera la semaine prochaine pour savoir lequel de ces deux clubs rejoindra pour accéder au top 14. Et là, on va parler, on quitte le championnat de rugby. On va parler équipe de France, puisque l'actualité est aussi florissante.
Est-ce qu'il faut parler en anglais ou pas encore? C'est pas sûr.
pas sûr. Alors, on commence par, puisque t'as lancé le, avant de parler de la liste, on va parler des futurs, des candidats au poste de futur sélectionneur. Alors, cet entraîneur anglais.
Et hier, j'étais avec un candidat hier.
Qui n'a pas entraîné depuis une dizaine d'années, Ludo. Qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, ça s'est apparu dans l'après-midi là. Hein. Woodward, champion du monde avec l'Angleterre, il a été sélectionneur de l'équipe d'Angleterre de 97 à 2004. Champion du monde avec eux en 2003, bon, des grands chelems, des tournois, un très grand entraîneur.
Mais rien depuis.
Non, j'y crois pas trop. Depuis, il a plus entraîné. Et puis, de toute façon, jamais un étranger a dirigé l'équipe de France. Et je vois mal les dirigeants du rugby français changer leur ligne de conduite. Hein, un Français doit diriger le 15 de France. Et ils vont continuer comme ça. Voilà. Et puis, Moscato, qui était hier avec Nico, hein, je crois.
C'est ça.
Exactement. C'est dans ce sens. C'est Vincent qui était avec moi.
Oui, Vincent est venu voir le spectacle de Nico.
Ah, je le garde pour l'extra time, oui. Le spectacle. Ouais, oui, d'accord. Ouais.
Et en tout cas, moi, juste pour donner mon avis, effectivement, l'entraîneur étranger. Alors, moi, je vois pas ça d'un mauvais œil, mais pas lui, parce que lui,
pas
ça fait
Woodward,
voilà,
attends,
ça fait 12 ans qu'il est plus dans le circuit.
Mais quand bien même il aurait été champion du monde avant-hier, je suis désolé. T'as vu le jeu qu'il pratique.
Après, c'est
dégueulasse.
Ça, c'est pas ça. Mais moi, dire qu'un entraîneur étranger, non. Moi, je suis pas aussi
mais un anglais non.
Mais pareil, à la limite un anglais qui non, j'allais dire une connerie, j'allais dire un anglais qui fait du beau jeu, mais
alors,
non, mais pas Woodward, c'est moche ce qu'il fait, quoi.
On va avancer, allez, on fait un petit tour de table pour un de nos favoris là pour prochain sélectionneur. On commence par le spécialiste Ludo.
Alors moi, je vais dire mes favoris, ceux que j'aimerais bien voir. Moi,
voilà, plutôt ça.
Galtier-Ibanez.
Une doublette.
Pas quelqu'un d'autre. Ouais, Galtier-Ibanez. Moi, ils font du... Ibanez à Bordeaux a fait un super travail. Hein. C'est un club au jeu plaisant et en plus de ça, il respecte la notion de combat. Donc tout ce qu'il faut à l'équipe de France, du combat et du beau jeu, contrairement à nos années, Laporte-Yévremont, Saint-André. Et c'est pareil pour Galtier, hein, malgré son aventure, fin d'aventure,
parce qu'avant, c'était pas mal.
Ouais. Du côté de Montpellier, je veux dire, il avait porté haut ce club jusqu'en finale du championnat. Pareil, avec du combat, du beau jeu. Il a été champion de France avec le Stade français en 2007. Pour moi, j'aimerais Galtier-Ibanez, mais le nom, c'est quelqu'un que vous connaissez très bien du côté de Toulouse. Je pense que c'est lui qui va être sélectionneur.
D'accord. Alors, justement, moi, je suis comme toi. J'aimerais bien cette doublette. Effectivement, le favori, apparemment, c'est Guinoves. Moi, je trouve que ça arrive, allez, je dirais 8 ans trop tard. Parce que là, il a déjà 62 ans. Non, Ludo?
Ah oui, je disais.
À une époque, oui.
Pour moi aussi. Ouais, il aurait fallu le mettre après la période Laporte.
Hein, voilà, Laporte, ouais.
En 2007, et là il aurait fait du bon boulot. Hein.
Exactement.
Il va peut-être faire du bon boulot, mais c'est vrai que vu l'âge et tout.
Emric, je sais pas, je suis un peu sceptique. Tu vois qui?
Je vois Noves et je pense qu'il y a moyen que ce soit énorme parce que il a l'air d'être parti pour reconstituer déjà au moins 2 sur 3 de la triplette magique du Grand Toulouse qu'il avait monté au niveau du staff, c'est-à-dire que Bru va probablement rempiler avec lui si ça se fait, c'est des bruits qui courent de manière assez sérieuse. Allez, il manquerait plus qu'il arrive à nous redébaucher Rouge et Thomas, et puis, et puis c'est bon, on a les trois là.
Vincent.
Ben moi, pareil, rapidement. Comme Aymeric.
Dans le micro,
pareil. Comme Aymeric.
T'es pas avec Ludo au téléphone ici. Hein.
Moi, je dirais Noves pareil, quoi. Quand on lit tous les médias, ça y est, il est parti de Toulouse.
Ah oui, ça y est.
On annonçait déjà les.
Hugo Mola déjà pour le remplacer.
Voilà, donc bon.
C'est pratiquement fait.
Pour moi, c'est déjà fait. Hein.
Nico.
C'est fait. L'info est tombée aujourd'hui. Mola, alors c'est très particulier. Mola signe 2 ans si Noves reste, 3 ans s'il part, mais de toute façon, en tant qu'entraîneur principal. Donc l'an prochain, l'entraîneur de Toulouse, c'est Mola.
C'est Mola. Nico.
Moi, j'ai envie de voir ce que va donner Guy Noves, parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Nous, les Toulousains, c'est pareil. Bien sûr, on sera sûrement déçus, mais après, c'est vrai que Ibanez et Galtier, ça me fait penser un peu à Deschamps et Blanc. C'est un petit peu ça.
Mélange les deux.
Ouais, Mika, moi, je prends Deschamps. Alors.
Non, c'est un peu la même chose. C'était les deux, entre guillemets, capitaines de la fin des années 90. Ouais. C'est comme au foot. Mais pour autant,
c'est pas mal ce qu'ils ont fait.
C'est pas mal ce qu'ils ont fait, mais on a envie de voir Guy Noves, et puis, il y a rien à perdre. Il y a rien à perdre. Celui qui devient sélectionnaire n'a rien à perdre.
On verra ça après la Coupe du Monde.
Si ça comprend les champions du monde, t'as l'air con quand tu dis
on
ça.
Sera pas
ça vous avez tout dit, mon Noves, ça me va bien pour, vous avez bien argumenté.
Alors, on a le futur sélectionneur, c'est Guy Noves. Mais déjà, les 36 joueurs.
Ah, ça, c'est plus compliqué.
Pas les mêmes. Ouais.
Alors, on va pas faire une revue d'effectifs entière, mais, les surprises, tu vois des surprises, tu vois, toi qui, tu suis ça de près.
Ouais, quelques surprises. Peut-être le retour de Picamol, pour le poste de numéro 8. J'aimerais bien une surprise aussi Nianga. Qui est remplacé en équipe de France durant les tests d'automne. D'autres surprises, je sais pas, en demi-mêlée, ça va être Paratilousbord, mais après, je pense que le staff va mettre Cocotte en numéro 3 demi-mêlée. Mais moi, j'aimerais bien, par exemple, un Machenot qui fait une super saison avec le Racing. Après, je sais pas, j'espère qu'il y aura les Toulousains, là, Médard, je sais pas, peut-être Vincent Clerc, ils font une super saison avec Toulouse. Là, surtout Médard, il couvre le poste d'arrière et le poste d'elle, donc ça devrait aller. Un Dumoulin au centre aussi, voilà, quelques petites surprises. J'aime bien aussi les piliers toulonnais, Menini, Tchoki, qui font un excellent boulot à Toulon.
Talonneur, tu vois qui?
Talonneur, il y aura Guirado, mais je pense que Talonneur c'est déjà fait. Hein.
Guirado, Kaiser.
Schwarzerski,
voilà, les trois.
Métro, il est dans la forme de sa carrière.
Alors, t'as pas parlé de notre point faible sur le tournoi destination, c'est quand même le buteur. Donc, il y aura qui cette charnière 9-10.
Un coup de gueule là pour le talonneur, pour Benjamin Kaiser. Depuis la finale, même la demi-finale de la Coupe d'Europe de rugby, il s'est fait piquer la place de titulaire à Clermont. Hein. C'est Ouloudia qui l'est passé devant. Va falloir vraiment, je sais pas qui se secoue, mais là il est complètement ailleurs là depuis cette demi-finale. Il a tout raté, la finale de Coupe d'Europe il l'a raté. Là il est remplaçant depuis 2 matchs. Hier c'est simple, il est rentré 3 minutes de jeu, il avait fait 3 fautes qui ont relancé les Toulonnais. C'est pas terrible pour un talonneur international. Voilà, je suis remonté contre les Clermontois ce soir.
Je vois ça. Mika,
il donne son joker en fait, il veut pas parler du 10.
Ouais, tu veux pas parler du 10, parce que moi la question c'est le 10.
Un buteur n'est pas forcément 10, hein. Si on a Morgan Parra ou...
Il faut quand même un 10.
Mais il faut un 10.
Voilà. Oui, mais Parra, Cocotte, ils peuvent assurer le rôle de buteur, elle est en 10. Allez, on met Plisson, pour moi, hein, Plisson, Lopez, faut voir la blessure par contre.
Ouais. Il c'est blessé hier.
Voilà, faut voir ce que ça donne. Mais
est-ce qu'il va prendre Trainduc?
Et puis Trainduc. Voilà, pour moi, il y aurait Trainduc, mais c'est notre souhait. Mais est-ce que ça sera celui du staff? Je ne pense pas.
Parce qu'il s'entend pas bien avec la Gisquet, visiblement. Hein.
Exactement. Et je pense qu'ils vont continuer. Moi, Lopez Plisson est à l'est, hein, le castré. Hein. Mais moi, j'aimerais bien Trainduc, Lopez Plisson.
Aymeric.
Je reste sur la charnière. J'aimerais bien paraître un duc parce qu'on l'a critiqué à l'époque, mais au final le plus on n'a pas réussi à faire mieux.
donc
au final c'était pas mal. Et puis bon, il y a un buteur dans cette paire là qui est para. Même Trainduc bute plus depuis son retour, mais il a quand même buté pendant 10 ans. Donc s'il fallait s'y remettre, je pense que ce serait pas trop compliqué. Derrière Tilousbord et
il y a Médard, Spelling, derrière.
Tilousbord est à l'aise, je pense. Et puis, Michalak comme dernier sur la charnière pour couvrir les deux postes.
Michalak, il faut voir s'ils le prennent quand même avec la blessure. Dans les 36,
S'ils prennent Plisson, ils doivent prendre Michalak. Michalak, il est remis quasiment, c'est fait. Plisson, il va louper la moitié de la préparation. Michalak, il manque rien. Il doit y aller pour moi, Michalak. Il couvre les deux postes. C'est important. C'est un mec qui fera pas la gueule s'il est remplaçant.
Putain, tu es à la Domenech, quoi.
Non, mais c'est vrai, c'est un gars qui a l'expérience.
Moi non plus, je peux y aller ou pas?
Non, mais on sait que s'il rentre, il fera le boulot. et que s'il joue pas, il fera pas chier.
Je suis pas, pas sûr qu'il y soit.
Pour moi, il doit y être.
Nico.
Moi, je prendrais Yachvili au poste de numéro. Non, Yachvili Michalak, je pense que ça se tente quand même. Non, après, il y a Titou La Maison qui est dispo aussi. Mais plus sérieusement, j'ai l'impression qu'il y a une creux toujours et il manque des gros leaders à ces postes-là et c'est vraiment dommage.
Quand on se pose autant de questions, c'est ça.
Ça montre
ça qui est inquiétant, ça montre que vraiment on ne sait pas où on va, Vincent.
C'est ça. Moi, je suis très inquiet pour la Coupe du Monde. Effectivement, on va sortir une liste de 30 ou 40 joueurs. Je ne sais pas, mais effectivement, je pense que ça va toujours être le même problème.
Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas un 9 ou un 10 voilà. Qui reste au poste longtemps.
On regardera demain Saint-André nous donner cette liste. On attend avec impatience parce que finalement, de toute façon, il y aura des surprises puisqu'on ne sait pas. Voilà.
Et Ludo, on commentera ça sur les réseaux sociaux.
Ludo, ouais, pour clôturer.
Et rappelez-vous la révélation des matchs d'automne, là. Teddy Thomas, exit. Hein. Alors lui, on n'entend plus parler. Il sera pas dans la liste.
Tu crois qu'il sera pas dans la liste?
Je pense que si.
Non. Il y aura Nakaitasi, UG, Médard. Après, c'est les arrières du Lens Speeding. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y sera.
Il y a une petite pièce à jouer, là. On verra ça demain. On commentera ça, comme l'a dit Vincent, sur les réseaux sociaux. Pour le clôture de cette émission, comme d'habitude, on va faire le petit extra time, Mika. Allez, rapide, on a une petite minute chacun pour nos extra time. On commence par Ludo, dis-moi. Qu'est-ce qui t'a marqué ce week-end?
Mon extra time, c'était. Alors, moi, c'est un sport méconnu, on va dire. C'était le championnat du monde de plongeon à La Rochelle. Ça fait des superbes images à la télé dans un décor vraiment royal et de rêve. Non, c'est vrai, vous rigolez, j'en étais sûr, mais c'était.
Ah, mais c'est bien.
Ils ont sauté. Si vous connaissez de La Rochelle, ils ont sauté donc de la Tour Saint-Nicolas dans le port de La Rochelle. 70 000 spectateurs, vraiment une ambiance formidable.
14 athlètes
qu'ils ont concouru. Et en gros, ils ont sauté de 27 mètres, c'est-à-dire c'est trois fois plus haut que le plongeon olympique. Et le vainqueur, c'est un Anglais, Gary Hunt. Voilà, c'est ce que je voulais un peu mettre en avant.
Et c'est mon c'est rare.
De ce week-end. Et voilà, c'était pour donner un petit peu de vision à un sport inconnu. Voilà, ce championnat du monde de plongeon à La Rochelle, 70 000 spectateurs.
C'est énorme. Hein. Parfait, Ludo. Emeric.
Allez, moi je vais parler un peu de vélo avant l'heure avec la super perf de Julian Alaphilippe autour de Californie. C'est moins médiatique que le Giro qui est la course majeure qui se déroule en ce moment, mais voilà, il y avait aussi donc le Tour de Californie qui se finissait ce week-end. Et Julian Alaphilippe vient faire deuxième à quelques secondes de Peter Sagan.
Nico, alors il est bon ou pas? Parce que je me rappelle qu'on a vu un débat il y a pas si longtemps
et en remportant l'étape Rennes. C'est on dit alors, il arrive toujours deuxième, là il fait deuxième du général, mais il claque l'étape Rennes.
Bien sûr, il est bon, mais on peut pas le mettre dans une case, on peut pas le mettre dans une catégorie. Il est dans l'une des deux meilleures équipes du monde et on ne sait pas du tout ce que ça va donner dans les prochaines années. C'est incroyable.
Et ce qui est bizarre, c'est que justement, FATX a dans ses rangs les deux plus gros inclassables de ce genre-là de actuellement, que sont Alaphilippe et Kwiatkowski, qui est un petit peu dans le même registre finalement.
Kwiatkowski qui est déjà champion du monde quand même.
Mais c'est un peu le même type de coureur que Kwiatkowski, un peu plus vieux Kwiatkowski, je crois qu'il a un an ou deux de plus. Mais c'est des mecs qui savent tout faire, grimper, rouler, sprinter, un petit peu limité en très haute montagne, mais
ce qui paraît qu'il faut même la vaisselle, mais
ouais. Ouais, mais je pense, hein.
Eh ben, il faudra les observer dans les mois et les années à venir, visiblement. Vincent.
Alors, moi, j'ai deux extracts.
Alors, il y en a que.
Un personne.
Ah, mais. 30 secondes chacun, sinon.
Allez, je vais essayer de faire un rapide.
Vite.
Alors,
vite.
Noter la remontée en Pro A après 22 ans de l'AS Monaco.
Qui remonte en basket.
Donc voilà, j'ai appris
Monaco
ça ce week-end.
Et est-ce que s'ils font les matchs de foot et les matchs de basket le même soir, ils arrivent à remplir le stade?
On peut se poser la question. Et après, je voudrais aussi parler de féliciter le Real de Madrid qui a gagné
exactement hier.
20 ans après le Final Four dans leur salle face à une très très belle équipe de l'Olympiakos.
Basket. 9e Coupe d'Europe pour le Real Madrid de basket.
Et juste rapidement, je l'ai promis à mes amis samedi, je voulais un petit coucou à mes amis de Fenouillet qui remontent donc à niveau supérieur et donc
passe à niveau régional.
Et je passe un coucou à Damien qui nous écoute et Christian Christophe. Et les félicitations à l'entraîneur Sébastien Borg.
Exactement, voilà. On les félicite. Nico.
Oui, moi aussi, mon extra time de samedi soir, c'est... Non, je déconne, je dirais pas. Mais plus sérieusement, dimanche après-midi, hier, j'ai eu le plaisir d'aller voir le second one-man show de Vincent Moscato.
C'est presque
Monsieur
du sport.
Monsieur Vincent Moscato, comment ?
C'est presque du sport.
C'est presque du sport, et c'est pas presque un phénomène, c'est une machine de boulot, ce mec, hein, parce qu'on sait qu'il fêtait ses 10 ans sur RMC, 10 ans de reconversion.
Et puis bientôt sélectionneur.
Réussi.
On n'en a pas parlé, mais.
Peut-être bientôt sélectionneur. il a chambré les Toulousains en parallèle de son spectacle sur ça. Il dit putain, en plus, ici, on est chez Guinouest, c'est lui qui va me piquer la place. Enfin, bon, il n'a pas arrêté. Et donc, spectacle très, très agréable. Bon, quand on suit un peu ce qu'il fait sur RMC, tout ça, on rigole du début à la fin. Mais bon, peut-être un peu moins. Moscatonien et un peu moins spontané que le premier spectacle qui n'était pas fait par les mêmes personnes. Et bon, c'est vrai qu'il parle même des politiques d'Hollande, de Sarkozy dans ce spectacle.
Donc c'est pas trop son terrain d'habitude.
C'est moins son terrain, voilà. Donc après, on s'est bidonné quand même toutes les 15 secondes, on a rigolé.
C'est déjà pas mal.
Mais ça vaut le coup. Il est encore c'est au casino Barrière de Toulouse ce soir, demain soir et mercredi.
C'est déjà pas mal au prix de la place.
J'espère qu'il t'a filé un billet pour faire sa promo sur la radio.
Non, mais en tant que passionné de sport et de radio.
T'as bien raison.
Mika.
On va quand même parler un petit peu de Djoko, après tous ces sports inconnus. Non, Djoko qui est en pleine forme pour attaquer Roland Garros, qui commence le week-end prochain. Hein.
Exactement.
Ça passe un tout petit peu inaperçu avec ses fins de championnat de foot, sur rugby, tout ça. Mais Roland Garros, c'est quand même...
On a oublié de le présenter.
Ben oui, le week-end prochain.
Ça commencera juste. Charrier, moi.
Non, voilà, c'est quand même un événement incontournable de la saison. Donc, on s'y prépare tous avec un Djoko qui va essayer de renverser Nadal. Enfin, c'est l'année pour le faire, je pense.
Exactement, on suivra ça comme on l'a dit, on présentera ça la semaine prochaine avec le démarrage de Roland Garros. Et pour moi, pour clôturer évidemment le titre de Barcelone, la première coupe de l'année, c'est un championnat en battant l'Atlético de Madrid là-bas, hein, à Madrid, c'était pas fait 1-0 avec évidemment un but de Messi. Le Barça se proclame champion d'Espagne pour la 7e fois sur les 11 dernières années depuis qu'à Messi, c'est extraordinaire. Et on est en attente du triplé, puisque dans 2 semaines, finale de la Coupe du Roi à Barcelone aussi face à Bilbao. Et finale à Champions League, 1 semaine après le 6 juin face à la Juve. Un triplé comme en 2009. Et il y en a certains qui parlaient de fin de cycle. Eh bien messieurs, c'est terminé Nico.
Mais ah, bon, c'est vrai, c'est
pour
vrai.
Nous, parce que pour vous, ça ne fait que commencer l'équipe de Radio Vélo.
Radio Vélo continue avec Ron de Lizard, le Giro dans quelques instants.
Je mets la pièce sur ton triplé. Pour moi, c'est le Barça peut-être le plus fort qu'on ait vu sur les 5-6 dernières années.
Mmh. Oui, sans problème.
Le PSG aussi, il faut le triplé, mais le triplé du pauvre.
Et Niepro qui va gagner l'Europa League, on aura tout vu.
Allez.
Il reste combien?
Ouais, c'est fini. Allez, vas-y.
Voilà, pour faire la liaison avec Radio Vélo, juste à la Philippe, c'était le coup de cœur là de je sais plus qui.
Emmerich.
Oui, à la Philippe, voilà, coucou à l'Auvergne, il est originaire de Montluçon, voilà, dans l'Allier.
Ah,
voilà.
C'est avec, pour ça.
Avec Bardet de Brioude, voilà, le cyclisme auvergnat, voilà, c'est plus et Anvers.
Et en pleine forme.
Avec Radio Vélo.
Super.
Allez, on se retrouve la semaine prochaine et ne quittez pas parce qu'il y a Radio Vélo qui arrive. Bon ciao, ciao.
Ciao, bonne soirée à vous. Un peu d'air, c'est clair, c'est clair. J'ai rendu à mes amplis pour plaire aux cailles, éviter les ennuis. J'ai passé l'âge, laissé des ardoises. Il faut que je me pose quand tout le monde se lâche. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Le soleil plombe et les girls sont faciles. Dans la pénombre préférée, les dociles. Je veux toujours moins en faire. C'est clair, c'est clair. Allonge du cash pour se manquer. Autant que je sache, c'est une bonne thérapie. On sort les flashs pour n'importe quelle tâche. La colère.